Slate Podcast.
You are nothing, Johnson.
C'est pas faux.
That's what the money is for.
C'est bon, Lou.
The danger. I am the one who knocks.
I think that I may be the voice of my generation.
Suit up.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans Pic TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la star de ce podcast, Marie Telling.
Oh, merci.
Salut Marie.
Salut Anaïs.
Est-ce que vous vous souvenez du temps où la plupart des séries étaient encore lancées avec un casting d'inconnu? Tu t'en souviens toi Marie?
Oui.
C'était il n'y a pas très longtemps encore.
Non, c'est vrai.
Mais pourtant aujourd'hui, il est rare de voir un nouveau projet télévisuel sans star hollywoodienne au casting. Michael Douglas, Nicole Kidman, Al Pacino, Kate Blanchett, Kevin Costner... Tout ce beau monde a joué au cinéma, mais surtout a joué dans une série télé cette année. Alors pourquoi les acteurs de ciné s'incrustent dans nos séries? C'est la question à laquelle on va répondre cette semaine, mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic?
Alors mon pic, c'est qu'on vient d'apprendre la programmation du festival Sérimania, qui va avoir lieu à Lille à la fin du mois de mars. Et la programmation est vraiment très enthousiasmante avec beaucoup de séries internationales. Donc, on a vraiment hâte de voir tout ça.
Voilà. Ouais, et on vous fera un petit compte-rendu une fois qu'on y sera allé.
Voilà. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic?
Moi, mon pic, c'est une drag queen qui s'appelle Katia Zamolochikova, ou Katia pour les intimes, et qui a une web-série avec une autre drag queen qui s'appelle Trixie, qui passe sur YouTube. Et c'est ma drag queen préférée. Je l'aime beaucoup. On en avait déjà parlé dans la newsletter Pic TV parce que cette web-série est hilarante. Ça s'appelle ça s'appelle UNHHH, je crois. Donc, si vous voulez regarder un sur YouTube, allez-y, c'est vraiment génial. Et en fait, cette drag queen passe à Paris et je vais la voir. Donc, je suis hyper contente de pouvoir la voir en vrai parce que c'est vraiment une grande inspiration dans ma vie. Mais évidemment, ce n'est pas le sujet de la semaine. Le sujet de la semaine, c'est les acteurs de cinéma qui s'incrustent dans les séries. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est un phénomène assez récent. Avant, c'était plutôt l'inverse. C'était les acteurs de séries qui allaient vers le cinéma.
Oui, parce que les séries télé, c'était un peu le marchepied vers le cinéma. C'était une façon de se faire remarquer et c'était un peu enfin le deuxième choix des acteurs qui auraient vraiment préféré être au cinéma et qui se retrouvaient sur le petit écran avant de vraiment faire connaître. L'exemple idéal de que toutes les stars de télé voulaient reproduire, c'était George Clooney dans Urgence, qui avait eu une carrière de ciné très anecdotique et avec des gros nanars pendant les années 80 et au début des années 90 et qui s'est retrouvé dans Urgence avec un rôle qu'il a révélé au public. Il a acquis un statut de sex symbole et il a quitté la série pour faire sa carrière au ciné et ça a hyper bien marché. Alors qu'il y a plein de stars de télé qui essaient de faire carrière au ciné, ça marche pas du tout.
Le cinéma à l'époque, c'était un peu l'Eldorado et le Saint Graal pour les acteurs. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas parce que juste l'industrie du cinéma a complètement changé. Mm-hmm. Et il y a notamment une disparition quasi totale des films à moyen budget. Où en fait, quand on est acteur de cinéma, on a grosso modo deux options. Soit de jouer dans un petit film indépendant avec un micro budget, qui donc va pas être vu énormément par le public et qui a peu de chances de te donner une certaine notoriété. Soit de jouer dans un énorme blockbuster. Et généralement, ça va être un film Marvel, un film de super-héros ou une suite d'une franchise, voilà, genre Very Bad Trip. 85 quoi.
Pour donner une idée un peu des différences de budget, Avengers Endgame donc qui est sorti l'an dernier, le dernier de la série Avengers a eu un budget de 356 millions de dollars. Ouais. Alors que par exemple un film comme The Farewell qui est l'adieu en français, qui est un petit film indé qui pour le coup a très très bien marché donc il a vraiment eu un grand public voilà, avait un budget de 3 millions. Donc c'est quand même une différence de 353 millions de budget entre les deux. Et au milieu, il y a vraiment un vide, en fait.
Ouais,
c'est-à-dire qu'avant, dans les années 90 et 2000, c'était là où les films de Soderbergh existaient. C'était là où les films indépendants, où il y avait vraiment des opportunités pour les acteurs d'exister, d'avoir des rôles intéressants et un peu complexes. Ouais. Et en même temps, de gagner de l'argent aussi et d'être vu par un public. Ces rôles sont de plus en plus rares, sauf sur Netflix, qui devient un peu un Eldorado pour ses réalisateurs avec Marriage Story ou des choses comme ça.
Ouais, et en fait, tu parles de Netflix et c'est clairement les plateformes de streaming qui ont aussi un peu changé ça parce que l'industrie du cinéma a changé en même temps que l'industrie de la télé changeait. Dans les années 90, on a eu la télé de prestige, on en parle souvent avec The Wire, Les Sopranos, etc. Enfin, The Wire, c'était début 2000. Et en fait, la télé est devenue de plus en plus prestigieuse. Elle a arrêté d'être un peu cette petite cousine moche du cinéma pour vraiment devenir quelque chose qui était considéré comme un art à part entière. Et du coup, le prestige, ça signifie avoir de plus grands noms qui viennent progressivement à la télé. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec, je pense, le tournant majeur qui est House of Cards en 2013, qui non seulement a un grand nom du cinéma à la réal et à la production, qui est David Fincher, mais qui arrive aussi avec deux stars du cinéma, Kevin Spacey et Robin Wright.
Je pense qu'il y a eu un commencement avec des réalisateurs connus qui sont arrivés dans le monde des séries parce que c'était un univers intéressant où ils pouvaient explorer plein d'idées. C'est grâce à ces réalisateurs après que les stars, les acteurs ont suivi. Et je pense que House of Cards n'aurait pas eu Kevin Spacey si oui. David Fincher, qui avait fait...
Qui a déjà travaillé avec lui.
Oui, qui avait fait en plus The Social Network 3 ans plus tôt en 2010, qui avait été un film à gros succès d'audience et succès critique. Et donc je pense que c'était vraiment l'arrivée d'abord des réalisateurs de ciné dans l'univers des séries qui après a ramené... les stars, enfin les acteurs avec des grands noms, quoi.
Ouais, et puis il y a Kevin Spacey, mais il y a aussi Robin Wright qui, elle, en fait, représente un peu tout ce mouvement qui ensuite s'est poursuivi. C'est une actrice qui est devenue très connue aux États-Unis avec le film Princess Bride quand elle était assez jeune et donc qui est devenue une actrice assez culte, mais qui ensuite a eu un peu une traversée du désert. Elle n'a pas fait grand-chose pendant assez longtemps dans sa carrière et un des derniers films qu'elle avait fait avant House of Cards, qui était Le procès de Harry Fallman, ça parlait du fait que c'était une actrice qui était un peu has-been, à qui personne ne voulait donner de rôle parce qu'elle était trop vieille et qu'on ramenait toujours à sa gloire passée et qui en fait décide de se faire digitaliser et transformer en personnage d'animation pour pouvoir relancer sa carrière, quoi. Et juste après ça, elle a fait House of Cards et c'est vraiment ça qui l'a relancée parce que je pense que plein de gens ne savaient pas vraiment qui était Robin Wright avant qu'elle arrive dans cette série, quoi.
House of Cards, ça a vraiment été un moment clé vraiment dans le passage des stars d'Hollywood, du cinéma vers la télé, enfin vers pour le coup le petit écran. Et pour vous donner une idée, en fait, le New Yorker, quand la série est sortie, a dit que la série est environ 5 fois meilleure que le film hollywoodien moyen. Donc il y avait vraiment cette comparaison et on avait l'impression d'un nouvel Eldorado, quoi.
Oui, alors, la qualité en fait s'est transposée du cinéma vers le petit écran.
Enfin bon, savoir si la qualité s'est transposée vers House of Cards, ça se discute.
Ouais, mais... c'est clair. Mais en fait, Robin Wright, c'est pas la seule à avoir eu ce genre de renaissance grâce à la télé. Il y a un autre exemple qui est hyper connu, c'est Matthew McConaughey dans True Detective.
Ouais, la McConnaissance.
Voilà, la McConnaissance, comme on l'a appelé. C'est un acteur qui était un peu typecasté, qu'on retrouvait souvent dans des rom-coms, qui avait une qualité assez variante.
Ouais.
Et en fait, au début des années 2010, il a commencé à avoir de meilleurs rôles au cinéma. Donc, avant même True Detective, la McConnaissance avait déjà un peu commencé, puisqu'il a fait Le Loup de Wall Street, il a fait Mud, il a fait plein de films.
Et puis Dallas Buyers
voilà,
Club.
Dallas Buyers Club, qu'il a fait en 2013. Et en fait, l'année d'après, en janvier 2014, il y a True Detective qui sort, alors qu'il est en train de faire campagne pour l'Oscar du meilleur acteur pour Dallas Buyers Club. Et donc ça, c'est vraiment la période de pic McConnaissance, puisqu'il a un énorme buzz grâce à sa performance dans True Detective à la télé. Et 3 mois plus tard, il gagne l'Oscar du meilleur acteur pour Dallas Buyers Club. Et il y a vraiment eu un effet, je pense, boule de neige, parce que True Detective, en plus, il joue le même personnage à 2 périodes différentes. Donc ça a vraiment montré un peu l'étendue de ses talents qui avaient été ignorés jusqu'à présent par Hollywood. On va écouter un extrait de True Detective dans lequel on entend Matthew McConaughey faire un célèbre monologue sur le fait que le temps is a flat circle. Je ne sais même pas comment dire en français.
C'est un cercle plat.
Voilà.
Why should I live in history, huh? Look, I don't want to know anything anymore. This is a world where nothing is solved. When someone once told me time is a flat circle. Everything we've ever done or will do, we're gonna do over and over and over again. And that little boy and that little girl, they're gonna be in that room again. And again.
Vous venez d'entendre un extrait de True Detective. C'est une des scènes les plus célèbres, voilà, les plus cultes de la saison 1, dans laquelle Matthew McConaughey, qui maintenant est un vieux loubard, qui a vu beaucoup de choses dans sa vie, développe toute une théorie sur le fait que le temps est cyclique, en fait. Et donc, c'est grâce à cette série True Detective qu'il y a vraiment eu un pic de la McConnaissance. Donc, c'est un jeu de mots entre McConaughey et Renaissance. C'est vraiment ça qui a un peu entériné la seconde ère de sa carrière, où il était beaucoup plus respecté. Et on l'a vu partout après, dans Interstellar notamment.
Ouais.
Donc, ça a vraiment joué un énorme rôle au cinéma pour lui, mais en passant par la télé, quoi.
Peut-être qu'il lui faudra un nouveau rôle télé pour relancer sa carrière,
ouais, voilà,
qui est un peu ralenti depuis,
Il a un petit coup de mou.
Ouais.
Et en fait, bah, la télé a vraiment vraiment joué ce rôle depuis quelques années de renaissance professionnelle ou de tremplin pour ceux qui sont un peu maltraités par le cinéma. Et il y a un autre exemple, c'est Viola Davis.
Oui, Viola Davis, qui avait une carrière au ciné qui était souvent dans des seconds rôles. On l'avait vu dans The Help ou des films comme ça. Et qui va faire la série Murder, qui va avoir le rôle principal, qui va être la première femme noire à gagner un Emmy dans la catégorie de
meilleure actrice
dans un rôle dramatique, dans une série dramatique. Et je crois que c'est l'année d'après qu'elle va gagner un Oscar pour Fences.
Deux ans après
qu'elle va gagner un Oscar pour Fences. Aujourd'hui, Viola Davis, c'est devenue...
C'est la reine des cérémonies de remise de prix, quoi. Elle est partout. On a l'impression qu'elle a gagné tous les prix. Enfin, vraiment, tout le monde l'adore. Mais c'est assez fou d'y penser aujourd'hui. Mais avant Murder, Viola Davis n'avait pas du tout ce statut à Hollywood. Mm-hmm. Pourtant, elle avait un CV vraiment bien rempli dans des films. Mais elle ne s'était pas fait remarquer comme elle l'a fait avec Murder.
Oui, quoi. Parce que pour une femme noire, une actrice noire d'un certain âge, c'est très dur. Déjà, pour une actrice noire, même jeune, c'est dur d'avoir des rôles principaux dans des films hollywoodiens et d'avoir un studio qui va vraiment financer ces films. Alors, d'autant plus si c'est une femme âgée ou âgée, une femme d'un certain âge.
Il y a plus de 35 ans, quoi, parce qu'en fait...
Plus de 40,
ouais. Non, mais parce qu'en fait, Hollywood, il faut le savoir, a des cases beaucoup plus rigides pour les femmes que la télé. Mm-hmm. Et c'est vraiment extrêmement difficile pour une femme à Hollywood d'avoir une carrière prospère après l'âge de 35 ans. Et d'ailleurs, on le voit souvent avec l'Oscar de la meilleure actrice qui est toujours donné à une actrice très jeune, alors que l'Oscar du meilleur acteur est toujours donné à un acteur qui a généralement la cinquantaine, parce que la durée de vie d'une actrice à Hollywood est beaucoup plus courte et c'est hyper dur de se démarquer après un certain âge, quoi.
Oui, d'ailleurs, il y avait un sketch très connu de la série à sketch d'Amy Schumer qui s'appelle The Last Fuckable Day. Donc, je vais traduire, c'est assez vulgaire, mais c'est le dernier jour à être baisable. Donc, c'est un sketch où Amy Schumer se balade dans la campagne californienne et tombe sur Tina Fey, Julia Louis-Dreyfus et Patricia Arquette en train de faire un pique-nique. Et elle leur demande, mais qu'est-ce que vous faites là? Et elles disent, on est en train de célébrer le dernier jour baisable à Hollywood de Julia Louis-Dreyfus. Et Amy Schumer qui est là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça? Elles disent, mais tu n'es pas au courant. Et il y a un moment où à Hollywood, dans le ciné, on n'existe plus si on est une femme passée un certain âge. Mm. Et elle dit, mais comment on s'en rend compte? Et elles disent, c'est quand on te propose un film où tu es le love interest de Jack Nicholson et que tu es en compétition avec une meuf qui a 20 ans de moins que toi et c'est elle qui gagne. Ou bien quand on te propose le rôle de la femme du Père Noël, mais que c'est Jennifer Lopez qui remporte ce rôle à la place. Donc, c'est tout un sketch sur l'absurdité, sur la place des femmes d'un certain âge à Hollywood, des femmes matures à Hollywood. Et quand Amy Schumer demande, et les hommes, est-ce qu'ils ont une date de péremption aussi? Elles sont là, non, mais ça va pas. Les hommes n'ont pas de date de péremption. Ils peuvent avoir 100 ans, ils seront toujours baisables. Mmh. Et alors que les femmes, pas du tout. Donc, c'est un sketch qui décrit vachement bien ce phénomène. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la télé a offert à des femmes plus âgées, plus matures, tout un nouveau champ de possibilités en fait qu'il n'y avait pas au cinéma.
Et il y a notamment Ryan Murphy qui est très célèbre pour ça. Il a beaucoup de séries qui ont été créées ces dernières années, notamment American Horror Story, qui est une série d'anthologie horrifique. Et en fait, dans American Horror Story, c'est un peu devenu la marque de fabrique de la série, c'est qu'il y a des actrices qui ont été négligées par Hollywood depuis des années, dont certaines avaient pourtant gagné des Oscars, avaient eu une carrière vraiment assez impressionnante quand elles étaient jeunes. Et c'était le cas de Jessica Lange, qui a eu quand même deux Oscars, ou de Kathy Bates, qui joue aussi dans American Horror Story, ou de Angela Bassett. Mm-hmm. Et donc, c'est des femmes qui ont trouvé, grâce à Ryan Murphy et à cette série, des rôles hyper riches, qui leur ont permis d'explorer plein de choses qu'elles n'avaient plus explorées depuis des années parce qu'on les avait laissées complètement à l'oubli dans le monde du cinéma. Et la télé leur a donné une seconde vie. On va écouter un discours de remerciement de Jessica Lange qui a gagné plusieurs Emmy Awards pour sa performance dans American Horror Story et qui parle justement de la rareté des possibilités qui lui étaient offertes avant cette série.
I want to thank the writers because I find it more and more rare or rarer, every year, to find a piece of work that is really beautifully written and gives you something to do. And it certainly was this.
Donc, on vient d'entendre Jessica Lange qui disait que, en fait, avant d'avoir cette opportunité de jouer dans American Horror Story, que c'était de plus en plus rare qu'on lui offre un rôle qui soit intéressant, qui soit bien écrit et qui lui donne quelque chose à faire. C'est littéralement ça qu'elle dit. Donc on voit à quel point ça l'a ému de trouver un peu une renaissance dans cette série.
Ce qui est intéressant, c'est que du coup, enfin, ça a donné plein d'opportunités à des acteurs comme ça, mais en même temps, c'est devenu aussi, enfin, le règne du coup de la série où maintenant c'est tous les acteurs ont envie de faire des séries télé, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, quand Jessica Lange est arrivée en 2012 dans American Horror Story, c'était pas encore aussi répandu que maintenant. Maintenant, en fait, il y a tellement de séries avec des acteurs hollywoodiens qu'il y en a certaines qu'on oublie carrément. On sait même pas ce que c'est. Enfin,
y a... genre Kevin Costner, quand tu l'as cité dans l'introduction, je ne sais pas dans quoi il joue, quoi.
Voilà, donc Kevin Costner qui joue dans Yellowstone, qui est un gros carton dans certaines parties des États-Unis, mais
genre le Montana.
Voilà, qui a déjà 2 saisons. Et franchement, c'est pas mal. Moi, j'ai regardé la première saison. Il y avait aussi Kelly Reilly, qu'on connaît de
L'Auberge espagnole.
L'Auberge espagnole, voilà. Mais il y a aussi, par exemple, Kidding de Michel Gondry avec
Jim Carrey.
Avec Jim Carrey, voilà. Plein de séries, en fait, sortent maintenant avec des stars de cinéma. Et c'est devenu anecdotique. On n'en parle même pas.
Oui, et puis c'est tellement bankable de faire ça qu'on va avoir une actrice comme Emma Stone qui vient d'avoir un Oscar pour La La Land et qui va se retrouver quelques mois plus tard dans une série de Netflix, Maniac, par le même réalisateur Cary Fukunaga que True Detective d'ailleurs.
Mmh. Avec Jonah Hill qui lui aussi avait eu pas mal d'Oscar buzz avant pour Le Loup de Wall Street.
Voilà, donc eux n'ont pas besoin d'exister à la télé pour avoir des rôles au cinéma, très clairement. C'est juste que ça les intéresse parce que les séries sont un univers où on peut explorer sur plus longtemps des personnages, on peut développer des choses plus intéressantes et surtout, maintenant, c'est un vivier de talent, quoi.
Bah ouais, en fait, c'est ce qu'on disait, comme il y a quasiment plus que les blockbusters qui existent dans le monde du cinéma, bah pour avoir un personnage qu'on peut vraiment développer, qui va être un vrai rôle de composition, qui va avoir de la nuance, qui va avoir vraiment quelque chose qu'on puisse se mettre sous la dent, bah il faut aller à la télé.
Ouais, bah c'est-à-dire...
Il y a plein d'acteurs qui en parlent, des acteurs de cinéma qui disent que c'est pour ça qu'ils vont à la télé.
Ouais, bah par exemple, Cate Blanchett, qui est dans les films Marvel dans Thor, elle fait des gros films comme ça à gros budget. Bon, bah ça te fait ton salaire pendant 10 ans, quoi. Mm. Mais par contre, à côté, elle va faire des projets télé comme Miss America qui va sortir cette année, qui est sur le mouvement féministe aux États-Unis. Cate Blanchett, encore une fois, n'a pas besoin de la télé, mais c'est juste des rôles intéressants dans lesquels elle peut se plonger.
Parce que Cate Blanchett, elle est partout. Elle était dans Carole, elle était présidente du jury à Cannes. Enfin, c'est vraiment... elle n'a pas du tout besoin, comme tu dis, d'exister à la télé. Mais en fait, c'est comme Al Pacino qui joue dans Hunters, qui vient de sortir sur Amazon Prime. Al Pacino n'a pas besoin de la télé pour se faire une notoriété. C'est Al Pacino. Mais il a décidé d'y aller. Et en fait, il y a quand même une grosse raison derrière tout ça. C'est que c'est aussi très lucratif maintenant pour les stars d'Hollywood, du cinéma, d'aller à la télé.
Oui, parce que alors, ce qui se passe avec la télé, c'est qu'on peut, enfin au cinéma aussi, mais à la télé, c'est plus facile d'être producteur exécutif ou d'être producteur d'une série. Surtout, à l'heure actuelle, on peut se retrouver, on peut ne jouer que dans une saison d'une série. Être producteur exécutif, ça a été le cas de Matthew McConaughey avec True Detective, qui ne joue que dans la première saison, mais il est producteur exécutif des 2 autres saisons. Donc, lui gagne de l'argent à chaque diffusion de la série. Alors qu'il n'a joué que dans une saison.
Alors qu'il n'a plus rien à faire.
Voilà. Alors, et c'est un investissement de temps qui est bien, bien moindre que ce que représentaient les séries dans le passé. Parce que dans le passé, il y avait vraiment...
Bah c'est ça. En fait, à l'époque, la plupart des séries duraient 24 épisodes par saison et n'avaient pas vocation à se terminer. On l'a déjà souvent dit ici. Donc, quand on s'engageait pour une série, on signait pour 7 saisons. Et après, on pouvait être renouvelé ad vitam aeternam. Maintenant, il y a beaucoup de séries qui font 6 épisodes et 2 saisons. Et c'est tout.
Oui.
Donc, c'est beaucoup plus facile pour un acteur de libérer du temps dans son emploi du temps pour faire une série, récolter le jackpot du statut de producteur exécutif et ensuite retourner à ses films s'il en a envie.
Oui, et ce qui est intéressant, bon là c'est une question un peu technique dans Hollywood, mais c'est la question de la syndication, c'est-à-dire qu'avant pour qu'une série soit syndiquée, c'est-à-dire pour qu'elle soit rediffusable sur d'autres chaînes et donc pour qu'elle gagne de l'argent sur des décennies, hein. Il fallait qu'elle ait plus de 100 épisodes. À l'heure actuelle, il n'y a pas des limitations comme ça, parce que les séries, une série comme Breaking Bad, par exemple, qui a beaucoup moins d'épisodes que ça, est syndiquée. Mais aussi, les séries existent sur Netflix, donc vont gagner de l'argent à ce niveau-là et tout ça. Donc, c'est très facile de faire de l'argent sur une série, bien plus que par le passé. Et c'est surtout très facile de faire de l'argent en investissant pas énormément de temps, quoi.
Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'acteurs, et notamment d'actrices, qui viennent du cinéma non seulement pour jouer dans les séries, mais pour produire, parce que ça leur rapporte plus d'argent et ça leur rapporte aussi un certain pouvoir. Et notamment, quand on parle de femmes et de la manière dont elles sont extrêmement marginalisées encore aujourd'hui à Hollywood, bah quand elles arrivent dans les séries télé et qu'elles deviennent productrices exécutives, elles ont vraiment leur mot à dire sur ce que leur personnage va devenir, la manière dont il est... dépeints à la télé. Et c'est le cas, par exemple, de Maggie Gyllenhaal, qui joue dans The Deuce, qui joue une prostituée et qui est aussi productrice exécutive de la série. Et en fait, on va l'entendre dans un extrait. Elle explique que c'était très important pour elle parce que dans les scènes de sexe, notamment, elle avait quelque chose à dire sur la manière dont on représentait l'orgasme féminin que les deux créateurs masculins de la série ne voyaient peut-être pas de la même manière, quoi.
You can't cut before that orgasm because that orgasm expresses something that, like, can't be said any other way. And I know you guys cut out before the orgasm because you were trying to respect her, but actually it's more respectful to show it.
Voilà, elle dit qu'en fait, il y a dans les scènes de sexe notamment, l'instinct des deux créateurs masculins allait être de couper avant que son personnage ait un orgasme. Et elle, elle a dit, bah non, en fait, c'est beaucoup plus respectueux envers ce personnage féminin de montrer qu'elle a un orgasme à la fin. Et vous, vous êtes peut-être pudique, vous voulez pas le montrer, mais en fait, montrer un orgasme féminin, c'est très important. Et ça, elle aurait sans doute pas pu le dire si elle était uniquement actrice. Donc c'est hyper important. Et en fait, on voit de plus en plus qu'il y a des actrices de cinéma qui deviennent des productrices hyper respectées dans le monde de la télé pour cette raison aussi, parce qu'elles ont envie de raconter des histoires qui n'avaient jamais la possibilité d'être racontées au cinéma.
Oui, bah, c'est le cas de Reese Witherspoon, qui l'a dit très clairement, qui a créé sa compagnie de production. À la base, elle a fait des films parce qu'elle a fait Wild, où elle a adapté un livre, mais après, elle a commencé à adapter en fait, des livres, surtout en série.
Et d'ailleurs,
elle a fait...
Big Little Lies est réalisé par Jean-Marc Vallée, qui avait réalisé Wild. Donc,
oui,
ils avaient déjà collaboré ensemble.
Sur un film. Et donc, Reese Witherspoon, elle a été très claire dans plusieurs interviews en disant que ça, la télé, les séries, l'univers des séries lui a offert des possibilités d'explorer des personnages féminins et d'explorer des histoires féminines qu'on ne lui laissait pas explorer au cinéma et d'avoir beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus de libre arbitre au niveau de sa carrière. Et ce qui est intéressant avec Reese Witherspoon aussi, c'est que c'est révélateur d'un autre phénomène avec son dernier projet, The Morning Show, qui est un projet pour Apple TV+, j'oublie toujours le plus. Elle joue dedans avec Jennifer Aniston et chacune, les chiffres ont fuité, elles ont chacune été payées 1 million par épisode. Et en fait, ça, c'est un autre phénomène qui existe et qui, bien sûr, attire des grosses stars du ciné vers la télé, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une telle compétition entre les plateformes de streaming, entre Netflix, Apple TV+, Disney, machin et tout ça, que chaque plateforme veut avoir sa star, parce que c'est ça qui va faire vendre, et ils sont prêts à payer. Et du coup, Jennifer Aniston, qui... alors elle, c'est marrant parce que c'est une boucle, en fait. C'est-à-dire qu'elle a commencé à la télé, est allée dans le ciné, a pas vraiment trouvé non plus de succès. Enfin, elle a fait des succès d'audience dans des grandes comédies, mais au niveau critique, pas trop. Elle se retrouve maintenant à la télé grâce, justement, à ce genre de budget, où maintenant, des séries peuvent s'offrir... Jennifer Aniston, alors qu'avant c'était inimaginable vu le niveau de salaire qu'elle a.
Ouais.
Et d'ailleurs Jennifer Aniston qui vient d'avoir un Screen Actors Guild Award, qui est un grand prix de reconnaissance de ses pairs des acteurs pour son rôle dans The Morning Show, ce qu'elle n'avait jamais eu pour ses rôles dans le ciné.
En fait, elle a essayé. Enfin, elle c'est vraiment le cas particulier quoi. Elle a essayé de faire une carrière au cinéma après sa carrière à la télé et elle est revenue à la télé, quoi.
Voilà. Bon, après, elle va sûrement rester un peu au cinéma aussi, ouais. Je pense. Mais c'est ça, maintenant, c'est qu'il y a les deux. Enfin, c'est les deux possibilités sont là pour les acteurs, quoi.
Pour finir, Marie, si tu avais carte blanche, si tu pouvais choisir un seul acteur ou une seule actrice de cinéma que t'aimerais voir dans une série, ce serait qui?
Alors, c'est marrant, j'ai beaucoup pensé à ça. mais en parlant de Jennifer Aniston, ça me fait penser à Adam Sandler, en fait, qui, lui, vient de jouer dans Uncut Gems, qui est vraiment génial, qui est sur Netflix. Si vous
une
l'avez
merveille.
Pas vu, c'est une merveille et il est incroyable dedans. Et ça m'a fait dire que vraiment, entre ça et Punch Drunk Love, on se dit vraiment, il a pas assez de rôles qui lui donnent une possibilité d'être...
De s'éclater, quoi, ouais.
Ouais, d'explorer tout son talent et de montrer vraiment tout son talent. Et j'aimerais tellement avoir une série avec lui où il explore ce genre de... où il a fait quelque chose de moins comique que ses films habituels, mais un peu plus dans la gamme Uncut Gems.
Ouais.
Et toi, Anaïs, ce serait quoi? Ce serait qui? Enfin, je sais qui c'est, en fait, mais vas-y.
Gros suspense. Non, mais tous ceux qui me connaissent savent que j'aimerais sans doute beaucoup voir Ryan Gosling jouer dans une série télé. Il a déjà joué à la télé, puisque c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière, en fait. Mais
Le Disney Club, c'est
ouais,
ça.
Voilà. Et Chair de poule. Mais ensuite, il est devenu très connu au cinéma. Et en fait, là, sa carrière est un peu en pause. Enfin, il apparaît de temps en temps dans certains projets, notamment des projets comiques qui sont vraiment excellents. Mais il s'est un peu calmé et moi, je trouve que c'est un acteur qui est souvent sous-estimé, qui a beaucoup de nuances dans ses performances et je pense que la télé serait parfaite pour lui permettre d'explorer ça et d'explorer un peu plus aussi son timing comique parce qu'il joue souvent dans des trucs hyper sérieux, avec pas beaucoup de dialogue, tout ça. Et j'aimerais vraiment le voir dans une comédie à la télé. Je pense que par exemple dans Succession, qui est produit par la même personne qui a fait The Big Short.
Dans lequel il était d'ailleurs.
Voilà, j'aimerais énormément voir ce que Ryan Gosling pourrait faire dans Succession. Ce serait magnifique.
C'est vrai.
Bon, et on peut jouer aussi au jeu inverse. Si, par exemple, tu pouvais mettre un acteur ou une actrice de série au cinéma, ce serait qui ?
Moi, ce serait Jake Johnson, qui jouait Nick dans New Girl et qui, je pense, est extrêmement sous-estimé. Et je voudrais le voir, en fait, en lead dans une comédie romantique.
Ouais, c'est vrai qu'il a un gros potentiel tension sexuelle.
Voilà. Et toi, Anaïs, ce serait qui ?
Moi, je pense que ce serait Carrie Coon, qui joue Nora Durst dans The Leftovers.
Ah, ouais.
C'est aussi une actrice de théâtre. Enfin, elle a une carrière déjà bien remplie, mais vraiment, je trouve que c'est une des meilleures actrices à l'heure actuelle. Et elle a joué dans des films, mais j'aimerais vraiment la voir beaucoup plus dans des gros projets, en fait, au cinéma, parce qu'elle n'est pas du tout assez connue par rapport au talent qu'elle a.
C'est
donc,
vrai.
Voilà. Regardez tout ce que Carrie Coon a fait. Elle est vraiment géniale. C'était Pic TV. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci, Marie.
Merci, Anaïs.
Pic TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur slate.fr dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous donner 5 étoiles, nous contacter sur les réseaux sociaux ou à pictvnewsletter@gmail.com pour nous dire que vous nous aimez. On vous répondra, sans doute.
Peut-être.